On parle, et ce, pour le moment, de rétinopathie diabétique, qui est la complication la plus fréquente du diabète, la cause principale aussi de cécité dans la population active. Et j'ai été assez surprise de lire qu'un demi-million de Canadiens vivent, sont atteints de rétinopathie diabétique. Et ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que l'on prévoit que l'incidence de cette maladie-là va doubler dans les 15 prochaines années. Bien, ça suit un petit peu le diabète, hein, qui est une maladie chronique très, très présente un petit peu partout dans le monde. On parle aujourd'hui de recherches récentes qui pourraient nous aider à mieux comprendre la maladie, à mieux la prévenir également, avec deux chercheurs issus de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Frédéric-Antoine Mallette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en oncologie moléculaire et Mike Safia, chercheur en ophtalmologie. Bonjour, Mike.
Bonjour.
Donc, tout d'abord, j'ai envie de mettre au clair cette alliance entre l'oncologie moléculaire et l'ophtalmologie. Qu'est-ce qui explique cette alliance-là?
En fait, moi, j'ai eu la chance d'assister à une excellente présentation là, du Dr Safia à mon recrutement, justement, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y a environ 4 ans de cela. Mm-hmm. Et puis, en fait, j'ai été très excité par ces modèles d'études qu'il nous a présentés sur la rétinopathie diabétique. Et j'ai vu tout de suite certaines liaisons possibles avec mon propre programme de recherche sur le vieillissement cellulaire. Donc, on s'est posé plusieurs questions, justement, à savoir quels étaient les défauts cellulaires là, qui peuvent survenir dans ce type de maladie-là.
Oui, c'est une façon d'allier les forces et les connaissances aussi, Frédéric-Antoine, pour aller un peu plus loin dans la recherche.
Tout à fait. Utiliser deux expertises totalement différentes, mais complémentaires dans ce cas-ci, pour découvrir, mettre à jour les mécanismes, les causes moléculaires de cette maladie-là.
Oui. Mike, bien sûr, vous êtes le chercheur en ophtalmologie, donc peut-être le mieux placé pour nous expliquer tout d'abord qu'est-ce que la rétinopathie diabétique.
Oui, donc la rétinopathie diabétique, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, c'est une maladie à très forte prévalence au Canada et dans tous les pays développés essentiellement, et de plus en plus maintenant dans les pays en voie de développement où on voit vraiment en termes de nombre absolu, c'est vraiment l'Inde et la Chine qui vont avoir le plus grand nombre de personnes atteintes de ces complications liées au diabète. Donc, essentiellement, c'est une des complications les plus prévalentes chez les personnes atteintes de diabète, donc soit de diabète de type 1 ou de type 2. Et ça se manifeste souvent après une vingtaine d'années, entre 10 et 20 années de diabète, à partir du diagnostic du diabète. Ce qui se passe, c'est les vaisseaux sanguins dans l'œil commencent à initialement relâcher un peu leur contenu. Donc, on a un gonflement de la rétine qui est cette membrane de cellules nerveuses en arrière de l'œil qui est responsable à transformer les images que nous voyons en impulses nerveux et transmettre ces signaux nerveux jusqu'au cerveau pour qu'on puisse avoir une image. Donc, ce qui arrive dans la rétinopathie diabétique, c'est en premier lieu les vaisseaux sanguins qui viennent alimenter les cellules nerveuses de l'œil dégénèrent. Et dans une deuxième phase, qui est plutôt celle qu'on a étudiée avec Dr Mallette, il y a une phase de croissance vasculaire pathologique, donc c'est-à-dire maladive, qui va carrément venir détruire certaines parties de la rétine ou de l'arrière de l'œil.
Mais qu'est-ce qui fait, Mike ou Frédéric-Antoine, peut-être plus Mike, que le diabète atteint les cellules de cette façon-là, que cette maladie a tant d'incidence sur les cellules de nos yeux?
Okay, c'est une très bonne question. Donc, essentiellement, la rétine, par poids, c'est le tissu le plus métaboliquement actif du corps. C'est-à-dire, c'est lui qui a besoin le plus de sucre ou le plus de gras pour fonctionner. Donc, quand on a une maladie comme le diabète, qui essentiellement est une maladie qui affecte tout le corps, les tissus ou les organes qui ont la plus grande nécessité énergétique vont être les premiers qui sont affectés. Et vu la structure de la rétine ou de l'œil, qui est très délicate, donc la rétine, c'est une fine couche de cellules nerveuses qui est irriguée de façon très organisée par des petits vaisseaux sanguins. Quand on commence à perdre ces petits vaisseaux sanguins, on a cette manifestation de rétinopathie.
OK. Et est-ce que l'on perd la vue de façon soudaine ou ça se passe, avec le temps, ça dépérit avec le temps, la vue?
D'habitude, ça dépérit avec le temps et c'est vraiment une fonction de votre diabète systémique.
Okay.
Donc, c'est-à-dire,
okay.
C'est une fonction. Si vous arrivez à bien contrôler votre diabète, les chances de développer une rétinopathie sont ralenties de façon significative.
Mm-hmm. Est-ce que ça vous a permis de voir, Frédéric, Antoine et Mike, c'est que les cellules, oui, vieillissent davantage, sont davantage atteintes, mais elles ne meurent pas complètement, c'est bien ça?
Exactement. Donc, elles répondent à la dégénérescence vasculaire, donc à la réduction d'apport métabolique en induisant ce qu'on appelle la sénescence cellulaire, qui est en fait un vieillissement cellulaire prématuré, où la cellule demeure vivante, elle est quand même active. Puis ça va causer aussi beaucoup de sécrétions de différents facteurs, plusieurs que ça va mener à une réponse inflammatoire aussi dans l'œil.
Mm-hmm. Et vos recherches, messieurs, ça vous a amené à quel genre de constat?
En fait, ce qu'on a observé, c'est que si on limitait justement la sécrétion de molécules pro-inflammatoires dans l'œil, en utilisant différentes drogues, donc des drogues qui sont présentement sur le marché, ou en ciblant certaines voies moléculaires bien précises qu'on a pu identifier, donc on peut limiter la sécrétion de certaines molécules par les cellules vieillissantes de l'œil et permettre une revascularisation saine.
Oui.
De la rétine.
Mais ces médicaments-là n'existent pas encore ou ils existent?
En fait, ils existent, mais ils ne sont pas utilisés. Dans le fond, les voies de livraison des médicaments ne ciblent pas en ce moment de façon efficace. Moi, c'est ce
okay.
qu'on voit, là.
Mm-hmm.
L'œil et le tissu rétinien. Donc, ce qu'on espère un jour pouvoir développer, justement, c'est des modes de livraison plus efficaces.
Oui.
De ces drogues.
C'est votre objectif.
Tout à fait.
Ouais.
Puis en fait, on a aussi on a fait des découvertes pour trouver tous les éléments en amont de ce vieillissement.
Mm-hmm.
Donc, on est en ce moment activement en train de développer des nouvelles formes de traitement pour justement halter ce programme de vieillissement prématuré.
Ouais. Vous avez travaillé avec des souris aussi?
Oui, majoritairement. Majoritairement des souris, mais également des tissus humains, des vitrées humains pour confirmer nos découvertes dans la maladie humaine.
Qu'est-ce que ça pourrait changer à moyen long terme sur l'incidence de cette maladie? Parce que on n'arrivera jamais à la guérir complètement, j'imagine, à mieux la prévenir, à la ralentir?
Oui, probablement un peu de tous les trois que vous venez de mentionner. Donc, comme on a dit au début, la rétinopathie diabétique, c'est vraiment une manifestation de la maladie du diabète. Donc,
oui.
La meilleure façon de prévenir cette maladie, c'est de bien contrôler son diabète.
Oui.
Par contre, si on a ces séquelles secondaires au diabète, il y a présentement certains traitements qu'on peut déjà utiliser dans les yeux qui vont justement halter la progression de la maladie, mais ils sont très peu efficaces chez certains patients. Donc, quand on pense du médicament le plus utilisé maintenant pour halter la progression, on a une réponse de seulement environ 60% des patients. Donc, il y a tout un 40% des patients qui reçoivent certaines de ces nouvelles injections qui ne répondent pas. Donc, on a de plus en plus d'évidence que les voies que Dr Mallette et, et moi ont mis en évidence pourrait justement pallier à ce 40% qui répond de façon inefficace à ces nouveaux traitements.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des tests éventuellement sur des personnes qui vivent avec la maladie?
Ah oui, absolument. Donc on est en train de développer ces nouvelles thérapeutiques et on pense que d'ici 18 à 26 mois, on devrait avoir les premiers patients qui recevraient les injections avec nos nouvelles molécules.
Mm-hmm. Et dans votre cas, Frédéric-Antoine, parce qu'on comprend très bien ce que ces recherches vont amener pour des personnes qui vivent avec la rétinopathie diabétique et tous les progrès que ça pourra amener, est-ce que vous voyez des résultats dans votre champ de recherche précis en oncologie aussi? Est-ce que ça amène des ouvertures?
Moi, tout à fait. En fait, comme les rétinopathies sont en fait des maladies vasculaires, des défauts des vaisseaux sanguins, donc on pourrait envisager en fait que justement les mécanismes qu'on a identifiés, là, causés par les cellules vieillissantes, pourraient altérer la formation de nouveaux vaisseaux et pourraient peut-être éventuellement aussi s'appliquer au développement de vaisseaux, dans le fond, pour durant la tumorigenèse, la formation de tumeurs, peut-être aussi la formation de métastases. Donc, comment est-ce que les tumeurs vont développer de nouveaux vaisseaux sanguins pour se diriger vers d'autres tissus? Oui, tout à fait, dans le domaine de l'oncologie moléculaire aussi, il y a un fort impact de notre découverte.
Oui, comme quoi l'union fait la force. Mais bien sûr, la conclusion, c'est que en arrivant à prévenir la maladie qu'est le diabète, on arriverait aussi à prévenir par la bande la rétinopathie diabétique. C'est ce que l'on souhaiterait, bien sûr. Hein?
Oui, absolument. Puis surtout dans le cas de diabète de type 2, qui est plutôt une maladie qui est due à un mode de vie. Oui. Là-dessus, on a vraiment beaucoup plus de contrôle de façon précoce. Donc, on peut commencer à avoir des signes avant-gardeurs de la maladie et carrément changer son mode de vie et donc prévenir la maladie ou en tout cas ralentir le développement de la maladie. Oui. Dans le cas du type 1, qui est une maladie plus auto-immune, donc on a moins de contrôle sur son développement. Mais on peut quand même bien respecter les traitements et donc ralentir la progression des complications.
Oui. Mike Sapia, vous êtes chercheur en ophtalmologie. Frédéric-Antoine Mallette, chercheur en oncologie moléculaire, tous deux du côté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemonde. Merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.